Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International au lendemain de notre belle émission avec un invité si spécial qui était Youssou N'Dour. Aujourd'hui, eh bien, retour à la réalité des choses avec la Ligue des Champions, quart de finale, retour. Et une soirée qui pourrait présenter des surprises si l'on en croit parfois les règles irrationnelles de ce sport qu'est le football. À Birmingham, les Parisiens auront 2 buts d'avance. Est-ce suffisant pour jouer une équipe d'Aston Villa invaincue sur sa pelouse depuis 17 matchs? Rashford, Watkins, Asensio rêvent de faire mieux, bien sûr. Et Unai Emery parle de remontada.
I have experiences.
J'ai l'expérience des retournements de situation, que ce soit positif ou négatif. Ce soir, ce sera différent.
En face, le PSG semble serein. Serein comme Ousmane Dembélé.
C'est pas fini.
C'est pas fini.
Juste la première mi-temps, c'est pas fini.
La deuxième mi-temps va arriver encore plus lourde.
On reste concentré.
Toujours sur les appuis.
Voilà.
Un match retransmis sur RFI. Vous avez rendez-vous sur notre antenne ce soir. Les Blaugrana au pied du mur jaune avec 4 buts d'avance, mais des remontadas, évidemment, ça existe. Positif ou négatif, comme dit Unai Emery. Les Barcelonais le savent très bien. Pourquoi le Borussia Dortmund peut-il croire à un renversement dans son stade débordant de ferveur? Et puis demain soir, nous l'évoquerons, 2 grands clubs sont en danger, 2 grands clubs européens. Le Real Madrid est-il vraiment à 24 heures de se qualifier en rattrapant 3 buts de retard? Et les ogres bavarois qui arrivent à Milan avec 1 but, eux, de retard face à un impressionnant Inter. Ce Bayern est-il d'attaque? Eh bien, je suis sûre que nos invités du jour ont les réponses, n'est-ce pas Eric Ravessandratana? Bonjour.
Ça va Annie?
Le PSG va se qualifier, donc vous avez la réponse.
Bah, j'espère. je m'emballe plus, mais bon, je suis content de le voir à ce niveau-là en tout cas.
À moins qu'Aston Villa ne lui fasse une mauvaise
tout est
surprise.
Possible.
Bonjour. Bon. Ça, dans le football, on le sait. Bonjour Bruno Constant.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Mm-hmm. Alors, qu'est-ce
faut
que
se méfier des vilains. Hein. Il y a toujours des vilains tours avec Aston Villa.
C'est
noms,
très bien
peut-être.
Fait. Et bien, un nouveau petit venu dans ce studio, mais qui connaît fort bien le Paris Saint-Germain et le football. Bonjour Saïm Damda.
Bonjour Annie.
Vous connaissez bien RFI aussi. Vous y avez été en stage, on s'en souvient.
Il y a très longtemps.
David Finzel m'a aidé à préparer l'émission avec Pierre Guérin et Laurent Salerno. Notre maestro est aux commandes. Radio Foot, c'est parti. Les Parisiens sont à Birmingham depuis hier pour disputer face donc à Aston Villa leur match retour après la victoire au Parc des Princes il y a une semaine. Des Parisiens qui font parler d'eux depuis qu'ils ont laminé Manchester City en une seule mi-temps, qu'ils ont éliminé les Reds, probable champion d'Angleterre. Ils sont regardés différemment au royaume de la Première Ligue. Tout de suite, nous allons en parler avec Cédric De Oliveira, notre envoyé spécial dans le centre de l'Angleterre. Bonjour Cédric.
Salut Annie, salut tout le monde.
Cédric, vous confirmez, le PSG est-il regardé autrement? Est-ce qu'il fait peur outre-Manche?
Je confirme. Alors ça dépend par rapport à quoi. Il est en tout cas, il était regardé différemment par rapport peut-être aux autres saisons. Oui, c'est vrai que les supporters, en tout cas d'Aston Villa, ils ont vu le match aller, hein, comme vous, comme moi, et ils ont aperçu beaucoup de talent sur ce PSG, comme face à Liverpool. C'est vrai que le match aussi, la double confrontation face à Liverpool a marqué les esprits aussi en Angleterre, et finalement ce match aller, ce 3-1. N'a été que la confirmation en tout cas du talent et de la nouvelle force collective de ce Paris Saint-Germain. Et c'est vrai que les supporters, voilà, bon, ils sont pas très très confiants pour ce soir, mis à part le côté qu'ils vont jouer à domicile et que ils vont essayer un petit peu d'emballer cette rencontre avec un scénario favorable, pourquoi pas. Tout, voilà, c'est le fameux pourquoi pas, tout peut arriver en Coupe d'Europe.
Exactement. Eric, vous, l'ancien capitaine du PSG, ça vous fait plaisir plaisir d'entendre ce qu'on dit sur le Paris Saint-Germain ces jours-ci, ces temps-ci, sur l'impression de, quand même de domination, en tout cas de faire un peu devenir chèvre ses adversaires et qui bluffe certains observateurs.
Ouais, bah parce que les choses ont changé. Il y a un état d'esprit qui a changé. Il y a une équipe qui a changé.
Parce qu'on l'a attendu longtemps, peut-être.
Ben ouais, parce que ces valeurs-là, elles existent depuis longtemps au Paris Saint-Germain. On les a un peu perdues avec une optique un peu différente de composition d'équipe et de d'achat de joueurs qui représentaient
star
système. Donc aujourd'hui, on retrouve des valeurs qui sont propres au Paris Saint-Germain et qui jouaient par une équipe très jeune. Et dédié à tout ce qui peut correspondre à l'état d'esprit du football et de tout ce que ça représente. Franchement, c'est un régal de les voir jouer. Donc, au-delà du fait qu'on espère quand même qu'ils vont gagner ce soir, c'est surtout le plaisir de les voir jouer. Et c'est là où peut-être cette reconnaissance, elle est peut-être plus importante par rapport à tout ça. C'est que tout le monde reconnaît que... ils prennent du plaisir à regarder ce PSG jouer là.
D'autant que, Saïd, cette saison, ils en ont joué des clubs anglais quand même. Cette équipe-là, ils rejouent Aston Villa, ils ont joué les Reds de Liverpool, ils ont joué Manchester City et Arsenal. Et là, on se dit, cette défaite à Arsenal, on s'en souvient très bien, ouais. Ce 2-0 où on les sentait impuissants, il y a eu une véritable évolution, on peut presque dire révolution dans cette équipe en quelques semaines.
Oui, en quelques mois, le Paris Saint-Germain a beaucoup évolué. Et j'ai regardé ce matin par curiosité les stats du match contre Arsenal et le PSG avait déjà la possession contre Arsenal. Il y avait surtout un manque d'efficacité qui était criant.
Oui, le fameux expected goal qu'on s'amusait à compter au mois de l'automne.
Et que Luis Enrique a réussi finalement à trouver,
à mettre en
place. Parce qu'il faut se rappeler quand même qu'au début de la campagne européenne, le PSG était 25e au classement. Il n'était même pas sûr d'arriver à se qualifier pour les barrages, donc on en était là. Et aujourd'hui, le PSG est en quart de finale avec un demi-pied en demi-finale. Et je pense que c'est un travail collectif. Comme le disait Eric, il fallait du temps pour mettre ça en place. On a arrêté de compiler les stars et on a arrêté aussi d'être dépendant d'un joueur facteur X. Aujourd'hui, que ce soit Barcola, que ce soit Doué, Kvara ou Dembélé, le danger vient de partout. Et je pense que le PSG avait vraiment besoin d'un collectif comme ça, vraiment uni.
Surtout au pays...
C'est fou quand même que depuis le mois d'août, donc ça fait à peu près 8 mois, souvenir les discours qu'on avait sur le PSG qui venait de perdre Kylian Mbappé, et on s'inquiétait pour le PSG à l'époque, comment le PSG va s'en remettre du départ d'Mbappé.
Surtout, on avait beaucoup ri quand Luis Enrique nous promettait que l'équipe serait meilleure la saison d'après.
Marqué 44 buts sur 4 joueurs. Et là, il faut saluer le travail de Luis Enrique. C'est lui et presque lui seul qui a réalisé
ça. Est-ce que ça vous fait sourire qu'au pays de la Première Ligue, on soit bluffé par le Paris Saint-Germain ?
Non, parce qu'avant ça, avant cette saison, on se moquait un peu du PSG. C'était un peu l'équipe des stars qui dépense énormément. Mais qui échoue.
Un peu prétentieuse,
qui échoue constamment dans les moments importants et parfois dans les proportions très grandes. Mais depuis déjà un petit peu la saison passée, mais beaucoup plus cette saison, on s'aperçut qu'il y avait une montée en puissance et on se disait, justement dans les podcasts, les émissions de radio, on disait, bon, ce PSG-là, il fait un peu moins rire que d'habitude quand même. Et on se prenait de plus en plus au sérieux. Et là, il y a une vraie équipe. Mais comme on disait du Liverpool de Jürgen Klopp, comme on disait du City de Guardiola, c'est collectivement. C'est fort, ça impressionne tout le monde. Donc là, c'est le travail, c'est la grande réussite du PSG, Luis Enrique.
Alors quand même, Cédric, cette équipe, elle arrive à Villa-Park. Et Villa-Park, forteresse royale, peut-on dire, hein, puisqu'il y a un prince qui siège en tribune, enfin, futur roi d'Angleterre, même deux futurs rois d'Angleterre. Forteresse qui, depuis 17 rencontres, depuis le 30 octobre dernier, a vu ses troupes ne perdre aucun match. Est-ce que cette forteresse imprenable... c'est une forteresse aussi historique et qui compte le rester ce soir.
Bah, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. En tout cas, du côté des supporters, on y croit. Mais d'ailleurs, ça a été un petit peu la rengaine en conférence de presse hier de la part de Unai Emery. Il a justement utilisé ce terme de forteresse, l'entraîneur de Villa. Même chose pour Rodgers, son joueur, qui en fait a parlé de ses supporters et du fait que c'est vrai qu'à Villa Park, eh bien, ce club s'en sort plutôt bien. C'est deux défaites quand même cette saison. Alors, elles étaient avant cette série dont vous parliez à Nice. Denis. Et elle a un peu, alors je parle sous le contrôle de Bruno Constant, mais elle a un petit peu cette équipe sur courant alternatif. Donc elle est capable de faire des choses brillantes et notamment à domicile, notamment là le dernier match qu'elle avait gagné, en tout cas de championnat. Et en tout cas c'est là-dessus que va essayer de s'appuyer à Aston Villa.
Alors Aston Villa aimerait ne pas perdre ce soir, mais ne pas perdre, ça ne suffit pas forcément pour se qualifier. Deux buts de retard, écoutons Unai Emery, justement cet entraîneur espagnol du club anglais.
Nous devons vraiment bien suivre notre plan de jeu et comprendre comment positionner au mieux nos joueurs sur le terrain. Ce sont eux, les joueurs, les véritables protagonistes, ceux qui peuvent faire la différence, donner le meilleur d'eux-mêmes et aller chercher la performance. Il faudra mettre en œuvre tout ce qu'on a de mieux, notre expérience, nos idées, nos tactiques, aussi bien individuelles que collectives. On doit y croire, montrer notre envie, notre détermination. Il faut les respecter, comme on l'a fait là-bas, mais aussi croire en nos forces. Et surtout, il faut qu'on se sente chez nous. Ici, c'est notre maison, notre forteresse. On a le temps de le ressentir, de le vivre avec nos supporters. C'est un match spécial, très motivant, et ce mardi, on est prêt à tout donner.
Oui, ils sont très motivés. Donc, Unai Emery au micro de vous, Cédric. Bruno Constant, est-ce qu'on ose y croire quand même dans la presse anglaise, selon vous? Mais surtout, est-ce qu'on est sincère quand on se dit deux buts de retard, c'est possible? Alors certes, il y a... forteresse imprenable, on le disait. Certes, il y a Rashford, Asensio, Watkins.
Non, mais c'est un peu de la communication pour essayer de se rassurer. Ils sont obligés. Ils ne peuvent pas dire autre chose avant d'attaquer un match avec des champions. Mais non, c'est plutôt pessimiste. Pas tant parce qu'Aston Villa était apparu limité, mais parce que le PSG semble trop fort. Aston Villa, il faut rappeler que c'est ni Liverpool, ni City, ni Chelsea, ni Arsenal. C'est un septième de Première Ligue. Qui effectivement est sur courant alternatif. Ils ont fait du bon, du moins bon. Mais c'est une équipe qui est capable de bien défendre, qui est capable de... Moi, je ne suis pas sûr qu'ils aient la possession ce soir face au PSG. Quand ils sont imposés face au Bayern Munich, plutôt dans la saison 1-0 à domicile, ils avaient 30% de possession. Ils ont joué leur plan de jeu. Ils vont guetter la moindre petite faute de l'adversaire. Et ils savent qu'ils n'ont besoin que d'un but. Une fois qu'ils auront marqué ce premier but, ça va emmener le public avec eux. Et on ne sait jamais. Après, tu peux amener le doute dans l'adversaire. Ouais. C'est une équipe qui est très forte sur coup de pied arrêté. C'est l'une des meilleures d'Angleterre. Et puis depuis cet hiver, ils ont aussi un banc de touche. Donc c'est aussi un match à deux vitesses avec des entrants qui peuvent amener quelque chose, des joueurs d'expérience comme Asensio ou Rashford.
Eric, il y a peut-être un moment où ça pourrait aussi basculer dans les têtes. C'est si par hasard, on en venait au tir au but avec ce fameux gardien qui rentre dans la tête de l'adversaire et peut'être des Français ou peut-être générale. Emiliano Martinez, pour ne pas le nommer, l'Argentin champion du monde.
Il y a des arguments, évidemment. Après, c'est vrai que les pénaltys...
Ils vont essayer d'arriver au tir au but.
Non, mais bien sûr, ça, c'est une des options, forcément. De se dire, si tu n'es pas capable de marquer ces trois buts, tu vas en mettre au moins deux pour revenir.
C'est ce qui peut les encourager à ne pas se découvrir.
Évidemment. Effectivement, ouais. Bien sûr que si tu vas au pénalty, on ne sait jamais... Il a ce pouvoir-là de rentrer dans les têtes des joueurs.
Il en a pris trois au match aller.
Non, il en a pris trois au match aller, mais surtout la série de pénaltys de Liverpool aussi me laisse penser que le Paris Saint-Germain est aussi capable de gérer cet événement-là. Donc on verra bien. Je pense pas qu'ils aient envie d'aller.
Il faut les arrêter. Ben oui. Il faut aussi les marquer.
Ben oui.
Et on a vu ce week-end à Aston Villa, Asensio a raté deux pénaltys dans le même match quand même. Mm-hmm. Donc moi j'ai du mal à croire qu'Aston Villa va se transformer en ogre européen et balayer le PSG comme ça, même si le public de Villa Park il est assez bruyant. C'est un plus petit stade que Saint James Park, Newcastle, que Anfield, Liverpool, mais c'est un stade dans une soirée européenne qui peut être très très bruyant.
Saïd,
moi je crois pas à la remontada d'Aston Villa. Parce que pour moi,
Unai Emery, deux buts, c'est une petite remontada.
Une petite remontada. Unai Emery, pour moi, a fait la même erreur qu'Arne Slot. Je pense qu'il a mal analysé le match contre Liverpool, puisque Liverpool, quand ils sont venus au parc, ils avaient tenté de jouer très défensif et d'aller chercher un résultat d'abord au parc et après d'être chez eux à domicile beaucoup plus à l'aise. Je pense qu'Unai Emery est arrivé avec une défense, avec trois défenseurs vraiment, vraiment de métier et jouer en cinq défenseurs. Et je pense que ça a été ça, son erreur, c'est d'avoir cherché trop la défense, puisque Paris, à force d'attaquer, ils ont trouvé la faille à trois reprises.
Mais à deux minutes près, son plan, il est parfait. Hein.
Ouais. En fait, c'est ça, c'est que ce genre de plan-là...
Avant le but de Nuno Mendes, ce troisième but, on était en train de se dire que le PSG, finalement, avait juste sa petite victoire de 2-1, ce qui était suffisant, mais Ce qui n'était pas une avance pas sécurité, considérable. Ouais.
Mais ouais. Je trouve que c'est une erreur parce que tu arrives quand même avec un désavantage clairement au match retour. Et aujourd'hui, il ne peut pas utiliser la même stratégie. Si ça avait fonctionné, j'aurais peut-être eu un discours différent. Mais aujourd'hui, il est obligé de se découvrir. Et je pense que si
un
il se
plus,
découvre,
pas beaucoup plus.
Le PSG va avoir beaucoup plus d'opportunités.
En tout cas, c'est une équipe qui veut y croire parce qu'elle a déjà goûté à la victoire dans cette compétition. C'était il y a longtemps, je sais, Bruno.
Non,
mais quand même,
non, ça compte.
Mais quand
autant,
même, exactement, va. Ça compte. Et c'était en 1982.
Ici donc le Feyenoord Stadion de Rotterdam où va se dérouler dans quelques instants la 27e finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Alors, l'équipe de Birmingham, l'équipe britannique d'Aston Villa, champion d'Angleterre l'année dernière, pour disputer la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions et tenter de garder un titre qui, depuis 5 années, appartient à des équipes anglaises. Mais face à eux, un autre ténor européen, le Bayern de Munich.
There's a good ball played in for Tony Morley. Oh, he must be!
Une victoire 1-0, c'était face au Bayern Munich, au stade de Feyenoord d'ailleurs. Une expérience, un trophée sur le blason,
hein.
Ça compte toujours.
Ah bah oui.
Ah non, mais Aston Villa fait partie des 6 clubs anglais à avoir gagné avec des champions. Ça faisait partie de l'époque des années 80, de la domination des clubs anglais, fin 70,
exactement.
Début 80.
D'ailleurs, c'est ce qu'ils disent, hein, que ça faisait 4 ans que c'était des clubs anglais, il devait y avoir Manchester United et d'autres. Ouais. En tout cas, côté parisien, la sérénité semble plutôt de mise. C'est évidemment l'un des apports du travail de Luis Enrique, ce qui rend apparemment léger les supporters venus jusqu'au nord de l'Angleterre. Cédric, vous avez déjà dû en croiser, j'imagine. Ils arrivent à quelques milliers, ces supporters.
Oui, ils sont entre 2 et 3 000, les supporters du Paris Saint-Germain. Et eux, ils sont vraiment complètement confiants. Hein. C'est depuis quelques semaines, ils ont changé aussi leur visage sur leur équipe. Et comme d'habitude, on va les entendre hein, dans ce stade d'Aston Villa, puisque les Parisiens, partout où ils sont, on les entend, que ce soit à Munich, que ce soit à l'Emirates cette saison, à Stuttgart, peu importe ce qu'ils ont. En phase 2, un stade complet, même à Anfield, on entendait les supporters parisiens. Donc, ils vont être là, les fervents supporters du Paris Saint-Germain, pour soutenir leur équipe après avoir déjà bien fait lors du match aller au Parc des Princes.
Oui, on a l'habitude effectivement de percevoir leur chant et leurs encouragements. À votre micro, Cédric, un autre qui a l'air très calme avant cette rencontre, cette année qui est une révélation d'un buteur, n'est-ce pas ? C'est Ousmane Dembélé.
C'est ce qu'on s'est dit, on n'est pas venu ici surtout pour spéculer. Là, on est venu pour gagner encore un match et on ne va pas changer notre jeu. On ne se dit pas de défendre ou de garder le score. Je m'attends à une équipe de Villa qui va venir nous presser énormément. Et avec 2 buts de moins, ils sont obligés de venir nous presser ou attaquer encore plus. Et on va essayer de jouer notre jeu jusqu'au bout et on est venu ici pour gagner. C'est ce qu'on va faire.
Saïd Hamdaï n'a pas marqué au match aller, Ousmane Dembélé, mais il a fait marquer et il est là, il fait partie de cette attaque. Alors avec Doué ou avec Barcola, avec aussi Kvaratskhelia, on a appris à le dire. Ils font peur aussi finalement tous ensemble, quels qu'ils soient.
Ouais, en plus ils ont des profils qui sont très différents et très variés, ce qui apporte encore un peu plus de danger. Ousmane Dembélé aujourd'hui s'inscrit dans un registre où il n'est pas uniquement dangereux quand il marque des buts. C'est vrai qu'on met souvent l'accent sur son côté finisseur, qu'il a beaucoup travaillé, qu'il a très très longtemps été reproché. Mais c'est un électron libre, c'est-à-dire que son jeu sans ballon permet beaucoup de permutations, permet à Barcola de prendre l'espace, permet à Doué de prendre l'espace, permet aussi à Kvara de rentrer dans le cœur du jeu. Et je pense que le PSG a une attaque qui est très très illisible. Je serais curieux de voir la composition que Luis Enrique va mettre ce soir. Ce que disait Ousmane Dembélé est très intéressant. Il disait que Aston Villa était obligé d'aller les presser, était obligé d'aller les chercher. Et je pense que Luis Enrique ira sur des profils un peu comme Barcola ou Ousmane Dembélé pour aller les prendre en profondeur et les obliger à ne pas trop trop les presser, puisque Paris est une équipe qui n'aime pas être harcelée. Donc je pense que Luis Enrique va préparer un contre-plan pour éviter ça.
Cédric, qu'est-ce qui fait le plus peur aux Anglais? C'est Doué, Dembélé, Kvaratskhelia, c'est-à-dire l'attaque ou l'ensemble?
Vous avez du mal avec votre géorgien, Annie.
Oui. Kvaratskhelia, j'apprenne à mieux.
C'est vrai qu'il faut, faut encore quelques mois le temps qu'il fasse peut-être une saison complète ici. Mais qu'est-ce qui leur fait peur aux Anglais? Un petit peu cette force collective. C'est pas là un joueur en particulier, même si voilà, ils ont été très surpris, par exemple, de découvrir que Désiré Doué était capable de faire ce genre de match avec son superbe but lors du match aller. Non, c'est encore une fois, c'est ce qui avait été dégagé face à Liverpool lors des deux matchs d'ailleurs. Aston Villa avait, en tout cas, les supporters, les suiveurs du foot anglais avaient noté cette capacité qu'avait l'équipe de Luis Enrique ce rouleau compresseur, cet étau, cette capacité à récupérer le ballon. Et puis, au match aller, voilà, ils ont vu aussi le talent des joueurs individuels faire la différence. Mais voilà, c'est vraiment le groupe et le fait que, cette équipe, elle paraît ne pas avoir de faille.
D'autant plus, une chose à noter, Eric, c'est que le capitaine Marquinhos, qui avait été suspendu au match aller, il sera là, derrière et en tant que capitaine. Et ça, ça a un côté rassurant, sans doute.
Oui, ça a un côté rassurant déjà parce que, il avait fait quand même un bon match contre Aston Villa. C'est Beraldo qui avait fait l'intérim. Mais évidemment que Marquinhos à la place de Beraldo, c'est quand même beaucoup plus rassurant.
Combien de matchs en plus?
En dehors de l'importance un peu inconsciente qu'il peut avoir en tant que capitaine, ça amène aussi son expérience et puis certainement l'engouement que tout le monde va avoir. Ouais, j'imagine que ça rassure tout le monde.
Le match sera retransmis sur RFI. Rendez-vous à Birmingham avec vous, Cédric, d'ici peu. Hein, le coup d'envoi, c'est dans un peu plus de 2 heures.
Oui, voilà, c'est ça. Écoutez, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Dans Radio Foot.
Exactement. Alors, à tout à l'heure et sur l'antenne et ensuite dans Radio Foot. Pour ce qui est de la retransmission du match, Eric Mamrud sera en studio. Tout cela à partir de 18h55, temps universel, 20h55, heure de Paris. Merci Cédric. Et donc, à tout à l'heure, on vous laisse vous diriger vers Villa Park. Et nous, on continue parce qu'il y aura un autre match aussi ce soir. Et ça sera du côté de l'Allemagne. Les Blaugrana se sont mesurés déjà au mur jaune, vide hier soir pour la reconnaissance du terrain, mais ils devaient se souvenir de ce match à l'automne dernier où les supporters de Dortmund emplissaient cette tribune si spéciale, vous le savez, 30 000 personnes debout, hein, pour une rencontre qu'ils avaient fini par gagner 4-3. 4 buts d'avance. Peuvent-ils être inquiets? Alors, ils le savent très bien, eux qui ont donc réussi cette prouesse un jour ancien, mais je ne veux pas vous le rappeler, non. Eric. Le football est ainsi fait. David Finzel parle du monde de l'irrationnel. On en a déjà beaucoup vécu des remontada. Ouais. Bruno, il y a un livre entier écrit par Sherif Guémour.
Sur les remontada de 4 buts?
Non. Des remontadas, on va dire.
À partir de combien de buts on appelle les remontadas? Des remontadas de 4 buts, il n'y en a pas eu beaucoup.
Tout à l'heure, 2, c'était une petite. Donc, c'est peut-être pas une remontada.
Le Paris Saint-Germain, l'autre jour, on a fait une petite contre Manchester City où ils sont menés 2-0. Ouais. Non, mais il y en a eu. On parle toujours de cette finale Liverpool à Milan à Istanbul.
Oui, au pénalty, 3-3.
C'est pas ce qui fait le sel du football, Bruno?
Si, bien sûr. Bien sûr, on a tous des souvenirs. Le match de l'Olympique de Marseille face à Montpellier qui remonte 4 buts en une mi-temps. Bien sûr, ça existe. Mais si on a vu le match aller entre Barça et Dortmund, il y a deux classes d'écart. Ouais, Barça, ils ont survolé ce match. Même si Dortmund s'est créé des situations et que si Guirassy avait été un peu plus adroit, peut-être qu'il aurait pu marquer un but. Mais le Barça aurait pu en mettre deux de plus. Là, pour le coup, je trouve que le Barça est quand même un cran en-dessus. Et en plus, des échos que j'ai de confrères qui couvrent la Bundesliga, le stade de Dortmund, notamment son mur jaune, ça fait moins peur depuis quelques années déjà. Je sais qu'on vante beaucoup cet aspect-là du stade, et il est impressionnant, même visuellement, quand on le voit s'élever, on a l'impression qu'on ne voit même pas les rangs de tout en haut.
Et puis ça chante, il y a des banderoles.
Mais ça fait beaucoup moins de bruit depuis quelques années, parce que comme dans beaucoup de stades, bah, y a une évolution des supporters, il y a l'augmentation des prix, il y a de plus en plus de touristes. Et il y a des supporters qui se plaignent de ce manque d'ambiance. C'est le cas à Liverpool et Anfield, c'est le cas à Dortmund avec... avec le mur jaune.
Bah écoutez, on va entendre un témoignage parce qu'un ancien gardien de but de Dortmund, un Français qui a été aussi gardien du RC Lens, il s'appelle Guillaume Warmuz. Et sur RMC, il y a quelque temps, il s'était souvenu du mur jaune et des sensations que ça lui avait données à lui.
J'avais la chance, puisque les gardiens de but, on sort en premier à l'échauffement, d'être le premier sur le terrain. Et là, je ne vais pas vous cacher... Moi, j'ai joué à Lens, mais c'est deux fois Lens, quoi. Donc, ouais, même si on est fatigué, on a mal à la tête, et que d'un seul coup, vous sortez, vous avez toute la sud-tribune qui vous applaudit, qui scande votre nom. Le maillot, il tient tout seul sur les poils, quoi. Il n'y a pas d'autre... donc, vous vous transcendez. Il y a vraiment quelque chose qui se passe, quoi. Voilà.
Alors certes, il y a quelque temps, mais peut-être que ce soir, Eric, c'est quand même un soir pour être là, les vrais supporters et l'ambiance. Parce que là, l'équipe, elle a 4 buts de retard.
Ouais, non, mais de toute façon... L'équipe a besoin de aujourd'hui de l'énergie des
plus
supporters
que tout,
qui fait que ça peut te pousser. Après, est-ce que l'énergie a été perdue entre-temps ? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce soir, cette équipe toute seule ne fera pas l'exploit si t'es pas soutenu par ton stade et ton public, en tout cas, c'est sûr.
Saïd, en tout cas, les jaunes et noirs, Niko Kovac, qui est leur entraîneur, alors il y a eu aussi des errements dans cette équipe, je crois que c'est le troisième entraîneur de la saison, mais Niko Kovac ne veut pas s'avouer vaincu, il veut surtout essuyer l'affront du match aller, c'est-à-dire, bon, ben, on a pris 4-0, peut-être que même s'il gagne 1-0 ce soir, ça, il se qualifierait pas, mais il serait content. Sur qui peuvent-ils compter ? Ils ont quand même, vous le citiez tout à l'heure, Guirassy, qui est dans les meilleurs buteurs de la compétition. Hein. Il est à 10 buts, si je me trompe, 9 ou 10 buts. Alors, il a été dépassé par Rafinha, qui doit être à 11 ou 12 maintenant. Et Lewandowski, je crois que c'est 12, 11 et 10. Il y a aussi Adeyemi, Sabitzer, Emre Can, Niklos Süle et Kobel. Est-ce que cette équipe, qu'on a vue pas mal dans le classiqueur ce week-end, elle peut essayer de faire au moins jeu égal ce soir ?
C'est une équipe qui a de la ressource. Hein. Vous avez cité par exemple un joueur comme Karim Adeyemi, qui est un jeune qui est très virevoltant.
On les a beaucoup vus en finale l'année dernière, jusqu'à la finale l'année dernière. Donc on a eu le temps de les apprécier, tous ces joueurs.
Ils ont des joueurs qui sont capables de faire la différence. Hein. Voilà, je citais Karim Adeyemi, qui est vraiment ce petit joueur détonateur, qui est capable de prendre la profondeur, qui est capable, sur un éclair de génie, de faire la différence. Mais je pense que l'enjeu sera surtout de sauver l'honneur. 4 buts de retard contre un Barça conquérant comme celui-là, qui est collectivement bien huilé. Le travail de Hans Flick est vraiment extraordinaire, surtout quand on voit l'attaque du Barça, qui est vraiment, vraiment très complémentaire, avec Lamine Yamal, Rafinha et Lewandowski en pointe, qui décroche et qui permet beaucoup de remiser sur les côtés, qui permet aussi à ces deux ailiers de prendre la profondeur. Je pense que quoi qu'il arrive, Dortmund va devoir se dévoiler et va du coup beaucoup créer d'opportunités pour le Barça. Si Dortmund déjà arrive à gagner le match, ou ne serait-ce même qu'à faire un match nul, surtout dans le contenu, je pense, ce serait déjà une victoire, et de ne pas sortir trop par la petite porte, parce que 4 buts face à ce Barça-là, au-delà même du résultat, c'est le rouleau compresseur Barcelone, qui est un peu comparable aujourd'hui au PSG ou comparable à Liverpool, fait que je pense que la marche sera trop haute, malheureusement,
les
pour Dortmund.
Les équipes qui donnent le tournis. Eric, quand on rentre sur un terrain et qu'on a 4 buts de retard, qu'est-ce qu'on se dit ?
Bah, tu te poses pas de questions, tu sais très bien que quoi qu'il arrive, il faut faire la différence assez rapidement.
On se dit mission impossible ?
Non, pas du tout. Non,
jamais ?
Non. Bah non, tu peux pas, parce que là, franchement, ça tuerait complètement ta dynamique, ton engouement et évidemment tes croyances. Donc non, tu y crois. Ça, c'est normal, en fait. Tu installes quelque chose, c'est préparé déjà depuis un petit moment. Si tu l'as pas préparé et que tu arrives sur le terrain en te disant « bon, on y va », c'est un peu trop tard déjà. Donc il faut vraiment le préparer à l'avance, c'est un conditionnement. Mais après, derrière... évidemment que l'adversaire et le niveau de l'adversaire fait quelque chose. Moi, aujourd'hui, j'y crois pas du tout. Le retour de Dortmund, c'est pas possible, en fait. Face à cette équipe qui a tellement de pouvoir offensif, c'est-à-dire que même s'ils sont capables de marquer 2 buts, ou je crois pas du tout que Barcelone ne marquera pas de but. Et derrière, c'est ça le truc. Donc,
des équipes qui ont déjà marqué 4 buts au Barça, ça existe.
Oui, oui.
Cette saison, le Benfica en a mis 4.
Bah, ils en avaient mis 3 quand même. Hein,
ils en avaient mis 4.
Cette équipe.
4 à Lisbonne, le Benfica a mis 4 buts.
Et Dortmund, ils en ont pris 5.
Ils en ont pris 5. C'est ça le problème avec ce Barça-là, c'est qu'offensivement, il est...
Et là, ils en avaient mis 3, ils en ont encaissé 4. Ouais. Mmh. On va écouter justement, parce que cette attaque barcelonaise qu'on connaît, hein, Rafinha, Yamal et le grand Robert Lewandowski, il a été révélé au Borussia Dortmund. C'était il y a plus de 10 ans. Et Hansi Flick, qui est l'entraîneur du Barça, mais qui a été l'entraîneur du Bayern où Lewandowski a aussi joué, eh bien, il le retrouve en Catalogne. Et écoutez ce qu'il dit de l'un de ses meilleurs attaquants.
Je pense tout simplement que si Lewandowski est encore à ce niveau-là et à cet âge-là, c'est évidemment en partie grâce à son talent naturel, mais surtout parce qu'il est extrêmement professionnel. Quand on regarde par exemple Cristiano Ronaldo, quand on voit à quel point il continue d'être à l'aise physiquement sans jamais relâcher ses efforts, il faut être honnête, il démontre chaque jour à quel point c'est un vrai pro. Lewandowski, c'est pareil, il se concentre sur tous les détails, il maîtrise tous les paramètres nécessaires à la performance et il sait les exploiter au maximum. C'est un exemple pour beaucoup de joueurs.
Il est une attaque, il est un exemple dans une attaque en feu, Bruno Constant.
C'est le joueur idoine pour le Barça, pour l'avancement du Barça, qui il se crée beaucoup d'occasions d'avoir un buteur comme ça. Ils l'ont longtemps cherché, hein, le Barça.
C'est vrai.
Ça faisait quelques années qu'il ne l'avait pas. Et avec Lewandowski en plus, qui plus les années passent, plus on a l'impression qu'il rajeunit. Lui, on ne lui parle pas d'âge non plus. Hein. Il est toujours aussi efficace devant le but. Donc il se régale dans une équipe comme ça, entourée de Rafinha et Yamal.
On a l'impression qu'il va mieux surtout cette saison par rapport à la saison dernière.
Mais parce que le jeu du Barça va mieux. Mmh. Parce que le jeu du Barça est plus offensif, il se crée plus de situations. Yamal a un an de plus. Rafinha est pour moi parmi les joueurs qui pourraient éventuellement prétendre au Ballon d'Or. Il est soutenu par un milieu de terrain qui est juste exceptionnel. On en parle moins parce qu'il marque moins de buts. Mais Pedri,
oui, mais
Pedri il est juste Pedri. Exceptionnel. Ouais. Mmh. Donc c'est une équipe qui, offensivement, il y a moyen de se régaler.
C'est ça aussi le Barça, c'est que le danger est partout.
Le danger est partout et en vrai, je pense qu'on sous-estime quand même beaucoup l'importance de Robert Lewandowski parce que c'est un joueur qui joue beaucoup avec son cerveau. Et je pense que sur la nouvelle génération de numéro 9, il n'y en a plus beaucoup des comme lui. C'est un joueur qui met en confiance ses partenaires, mais surtout sur les petites remises, les trucs dans les petits espaces, sur aussi la finition. Il n'a pas besoin de beaucoup d'espace pour pouvoir tirer, pour pouvoir se créer une fenêtre. Je trouve que c'est le genre d'attaquant pour accompagner des joueurs comme Rafinha et comme Lamine Yamal, absolument parfait parce qu'il va leur transmettre déjà tout ce côté un peu sang-froid que ces joueurs n'ont pas encore. Et surtout, c'est le joueur qui est capable, voilà, avec son expérience, de déclencher à n'importe quel moment dans le match. Et des numéros 9 comme celui-là, il n'y en a plus beaucoup en Europe.
Mmh. Le grand Robert Lewandowski, donc, qui devrait ce soir peut-être faire mal à son ancienne équipe, peut-être ne commémorera-t-il pas les buts qu'il mettra.
J'allais dire, il l'a fait à Barcelone. Donc oui. Il avait pas l'air
là,
trop gêné.
Il était chez lui, là.
Ouais, c'est bien, mais bon. En même temps, c'est bien, il faut célébrer.
Oui,
ouais, de toute façon, ils changent tous de club.
C'est pas un manque de respect, en tout cas. C'est sûr.
Rendez-vous donc sur l'antenne dès 20h55, puis deuxième édition de Radio Foot, et ça sera 21h10, universel 23h10, heure de Paris. Mais pour l'instant, une parenthèse musicale, l'artiste turc Selman Faris avec ce titre Rêveur. Ispahan. Salman Faris, Ispahan. Ça vous a
plu ? Il est bon, mais oui, mais Laurent, il est bon à choisir des titres comme ça. Là.
C'est Laurent qui choisit, Eric, et il choisit. Vous pourrez choisir aussi sur la playlist de RFI Musique qui est accessible à tout le monde. Allez, on continue parce que demain soir, il y a des grands clubs d'Europe qui sont en danger. Deux grandes d'Europe donc sur le point de vaciller en quart de finale et de ne pas figurer dans le fameux dernier carré. Le Real de Madrid est-il à 24 heures d'un exploit ? 3 buts de retard alors que les Gunners joueront demain à Santiago Bernabéu. Pourquoi peuvent-ils y croire ? Eh bien, je vais vous poser la question à chacun. Allez, Saïd.
Ils sont à 24 heures d'un exploit comme ils sont à 24 heures d'un désastre. Je pense qu'on peut y croire parce que le Real Madrid a prouvé au fil des saisons que c'était un peu comme la Casa de Papel. C'est une équipe de, c'est une équipe de braqueurs. Même quand il n'y a plus d'espoir, ils arrivent toujours à avoir une petite étincelle, à réussir à
ils sont
remonter.
Espagnols à la Casa de Papel, mais, tout va bien.
Mais aujourd'hui, moi, je suis quand même un petit peu pessimiste pour le Real. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a une stat, moi, qui m'a particulièrement frappé. C'est le nombre de kilomètres parcourus par les attaquants. En Ligue des Champions et dans le top 5 des attaquants qui courent le moins, bah, y a tout simplement le trio d'attaque du Real Madrid avec Vinicius et Mbappé qui sont même dans le top 3 eux deux, et un petit peu plus haut on a Rodrigo. Et en vérité aujourd'hui le football, on le voit avec le PSG, on le voit avec le Barça, on le voit avec Liverpool, c'est un sport collectif où il faut que chaque joueur court pour l'autre, fasse des sacrifices. On peut pas se permettre d'avoir 3 joueurs comme ça qui courent moins de 9 km par match. C'est trop handicapant. Un joueur comme Bellingham aujourd'hui fait les efforts pour compenser, mais ça suffit pas. Et le fait qu'il fasse autant d'efforts défensifs, eh ben on se prive de tout son apport offensif. Je pense que cette saison, elle est un petit peu à oublier côté Real Madrid. Il y a Kylian Mbappé qui vient d'arriver. C'est une saison de transition.
À oublier.
Il va falloir saison à oublier en Ligue des Champions, sortir en quart de finale.
Oublier. Ils sont encore qualifiés en Coupe du Roi. Ils sont qualifiés en championnat.
En Liga, ils ont pas lâché
points,
encore.
4 points d'écart.
Mmh. Bah saison à oublier en quart de finale pour la Ligue des Champions.
Et le Real à l'attaque d'un match retour de Ligue des Champions. S'il y a bien un club au monde qui peut renverser un déficit de 3 buts, c'est le Real Madrid.
Bien sûr,
je suis comme toi, je suis très pessimiste.
J'ai commencé par ça, mais pour moi, la Coupe du Roi, on sait tous qu'en Espagne, voilà, c'est anecdotique, en tout cas pour un club de la stature du Real Madrid.
C'est anecdotique s'ils peuvent éviter une saison blanche.
Oui, s'ils évitent une saison blanche, mais je pense que par rapport au standard, le fait d'avoir fait venir Kylian Mbappé, si le bilan à la fin de la saison, c'est de se dire on a eu juste la Coupe du Roi avec Kylian Mbappé, je pense que c'est quand même un échec. Kylian est venu pour la Ligue des Champions, sortir en quart de finale face à
Mbappé,
Arsenal.
Mbappé ou pas, le Real Madrid, s'il n'y a pas de Ligue des Champions ou de Liga à la fin de la saison, ça reste un échec. Parce que c'est le standard du Real qui est hyper exigeant.
Mais c'est ça aussi peut-être le piège pour eux, Bruno, c'est-à-dire tous les ans être dans le dernier carré de la Ligue des Champions, mais c'est un exploit quand même, être parmi les 4 meilleurs d'Europe. Il y a des années où on peut être éliminé, bon bah là on peut louper un match, et ils ont clairement loupé le match aller à Arsenal. Ils sont tombés sur plus fort qu'eux, mieux organisés, qui couraient plus, c'est tout ce qu'on vient de dire. C'est peut-être aussi être trop exigeant.
Non, c'est pas trop exigeant, parce que c'est le recordman de victoire en Ligue des Champions, donc l'exigence, elle est permanente au Real Madrid.
Mais ils sont tenants du titre, ils peuvent le lâcher un peu pour d'autres.
Je suis pas sûr que ce soit dans les esprits. Hein.
Mais
ils vivent
avec cette exigence-là depuis tout temps. Donc mais ce qui s'est passé à Arsenal, c'est quand même le reflet de leur saison. Parce que cette saison, ils sont pas bons dans le jeu, c'est déséquilibré, Toni Kroos n'a pas été remplacé. Mbappé, pour moi, n'est pas le responsable de tout, mais ça a forcément un peu déséquilibré le vestiaire, en tout cas vis-à-vis de Vinicius et Bellingham, qui étaient les deux stars la saison passée. Mais voilà, après, le Real, c'est ça, on peut jamais... Et moi, je trouve que c'est leur force. Même avec un déficit de 3 buts, on est toujours en train de se dire... Mais peut-être qu'ils vont le faire quand même. Et ils se préparent à le faire. Ils ont commencé la petite musique.
C'est ça l'ascendant un petit peu psychologique qu'ils ont sur l'adversaire au départ.
S'il marque un but dans le premier quart d'heure, quand on est les Gunners, on va se dire mais qu'est-ce qui va se passer quoi.
Ils peuvent vite rentrer dans la tête des joueurs d'Arsenal parce qu'ils ont un passif. Ils l'ont déjà fait une fois, deux fois, trois fois. Donc psychologiquement, c'est vrai qu'il y a une attente chez l'adversaire. On se dit si je prends un but au bout de la 7e minute, je vais être une nouvelle victime du fameux Real Madrid. Donc c'est vrai qu'il y a cet aspect psychologique là qui est très fort.
Après, Arsenal a des arguments. Ouais, c'est que c'est la meilleure ou deuxième meilleure défense d'Europe avec l'Inter. Ils sont capables de défendre en bloc bas. Ils l'ont déjà fait en première ligue plusieurs fois. Ils sont capables d'avoir un jeu pragmatique. Et puis, ils ont intensité dans leur jeu quand ils se mettent à presser. C'est redoutable.
Eric, alors pourquoi doit-on y croire ? Est-ce que parce qu'ils ont 15 ouais, trophées ? Alors, ils ne sont pas tous étoilés sur le maillot, mais on le sait tous.
On a rigolé, on a vu rigoler sur les réseaux sociaux en se disant, bon... comment l'arbitre va pouvoir aider alors là c'est Le Texier qui va être arbitre de ce match là, alors on a envie de se dire qu'il va être impartial, mais bon non mais voilà, au-delà de ça par rapport à la performance d'Arsenal, j'ai aussi du mal à croire que le Real, alors c'est pas parce qu'ils sont pas capables, c'est juste que Arsenal a tellement bien défendu sur ce match aller que je me dis qu'ils vont avoir le même état d'esprit et la même volonté, et que cette équipe du Real va peut-être encore plus sortir parce qu'elle est vraiment obligée de revenir, et du coup Arsenal a aussi des arguments offensifs.
Est-ce qu'on va les voir courir autant que les autres?
Non, je crois
sans
pas.
Sans doute, non. Enfin, on ne l'aura pas dit pendant la semaine.
À mon avis, ils vont courir beaucoup plus que le match aller déjà. Ce qui sera déjà un bel exploit.
De 97.
Mais non, mais après, on n'est pas à l'abri d'une faute bête en début
pas,
de match.
Un carton rouge au bout de 15 minutes, tu ne sais pas.
Gabriel,
ça change tout.
À Arsenal, il y a l'absence de Gabriel qui est pour moi énorme parce que c'est un super défenseur. Kvyat qui a fait un bon match aller. Mais si tu le testes un peu plus, il est tout à fait capable de craquer, de prendre un rouge, de faire une faute dans la surface. Et ça peut relancer tout un match. Réal, il faut toujours se méfier.
C'est terrible quand même de dire ça, parce que tu te dis, bon, 3-0, avec le match que tu as vu au match aller, tu te dis, bon, il n'y a pas de raison que Arsenal craque, mais c'est le Réal.
C'est le Réal. Bon, ben on restera là-dessus, Eric. Et alors, le Bayern Munich, les Bavarois joueront, eux, à Milan, à Giuseppe Meazza, hein, nuance, ce n'est pas San Siro. Avec, c'est le même stade, bien sûr, tout le monde le sait. Mais il change de nom selon l'équipe qu'il occupe. Avec un but de retard seulement. Alors, cette équipe, elle a été piégée par cet impressionnant, tout le monde est un peu d'accord là-dessus, Inter de Simone Inzaghi. Et surtout, ils ont renversé une invincibilité qui durait depuis 4 ans. Ça faisait 4 ans en Ligue des Champions, 22 matchs que les Bavarois ne perdaient pas chez eux. Est-ce que selon vous, cette équipe qui a quand même été assez brillante au match aller, alors ils ont manqué d'efficacité, mais Thomas Müller, l'infatigable, l'ancien, si c'est vous qui le dites, l'ancien qui a marqué, le futur retraité surtout, en tout cas retraité des Bavarois, est-ce que vous pensez qu'ils peuvent retourner la situation à Milan, Eric ?
C'est pareil, je me rappelle, on en avait rigolé d'ailleurs, le Inzaghi avant le match qui pleurait presque, et on avait presque envie de pleurer avec lui pour dire « Ah, j'ai pas de joueurs, ils sont meilleurs que nous et derrière ils vont gagner 2-1 là-bas ». Je pense réellement que l'Inter va gagner contre le Bayern et que ça va être compliqué parce que le Bayern est moins impressionnant que certaines années, même si il a toujours son vécu et son expérience dans cette compétition, mais j'ai quand même l'impression qu'ils sont moins forts que l'Inter sur cet affrontement-là.
Futur champion d'Allemagne, vraisemblablement.
Ils ont perdu leur meilleur joueur, Moussiala.
En plus,
au Bayern, c'est énorme. L'absence de Moussiala.
Saïd, hein, sur ce Inter-Bayern.
Je pense que c'est le match le plus équilibré. Le Bayern a pas mal d'arguments encore à faire valoir.
C'est sûrement le plus imprévisible, en tout cas, des quatre. Hein.
Au match aller, quand même, le Bayern a eu quand même pas mal d'occasions, ce qui peut laisser penser qu'ils vont encore exister. Un autre paramètre qui peut motiver les Bavarois, c'est que tout simplement, la finale de Ligue des Champions, elle se déroule à Munich.
Sûr.
Donc il y a aussi tout cet aspect-là de se dire... ce serait bête de sortir avec une défaite assez courte 2-1 au match aller, de ne pas aller en finale à la maison. Je pense que l'Inter a eu un game plan qui était quasi parfait. Ils ont réussi, notamment avec leur milieu de terrain, Mkhitaryan, Çalhanoğlu et Barella, à vraiment prendre cette possession du jeu qui leur a permis de faire très mal. Mais le Bayern existe toujours. Hein. Il y a des joueurs comme Mikael Olise qui sont capables de faire la différence. Thomas Müller, il y a aussi cette expérience. Il a participé à tellement de campagnes européennes. Je pense que le Bayern existe encore, mais je ne saurais pas dire qui passera.
C'est compliqué, là. Bruno, Harry Kane. Est-ce que...
Il a mangé la feuille, Harry Kane.
Le chat noir.
Est-ce qu'il va finir la saison encore?
Non, mais le pauvre, quelle réputation!
Il va gagner la Bundesliga,
Il aura son trophée, mais et celui de Ligue des Champions.
Moi, je trouve pas que le Bayern fasse partie des meilleures équipes d'Europe, en tout cas pour un dernier carré. Je trouve qu'il y a défensivement, il y a trop de largesse.
C'est fou, cette déséquilibre.
Il y a encore plus des blessures qui se rajoutent à ça. Et moi, je trouve que l'Inter, et chaque année qui passe, se trouve toujours un peu plus fort, plus mature, plus expérimenté. Et moi, ça me fait vraiment encore une fois penser à City qui avait perdu la finale 2021. Ils reviennent en 2023. Ils sont moins visibles par rapport aux autres, moins étincelants. Mais ils font ce qu'il faut pour gagner, en fait, pour se qualifier, juste ce qu'il faut. Ils ne laissent rien à l'adversaire ou très peu. et l'Inter à domicile, j'imagine pas les voir sombrer ou chuter.
Harry Kane est-il le Lewandowski de cette équipe du Bayern?
Oui.
Est-ce qu'il est aussi bon?
Oui, c'est deux joueurs un peu différents, parce qu'Harry Kane décroche plus, il fait plus de choses sur le terrain.
Il participe plus au jeu, ouais.
Mais il est aussi un peu dépendant des autres. Et notamment, l'entente avec Moussiala était intéressante. Voilà, c'est effectivement, ils ont une énorme pression. Vincent Kompany, sa première année aussi, c'est un jeune entraîneur, peu d'expérience, même si ça a été un grand joueur. Et pour moi, l'Inter est beaucoup plus armé pour aller. Et je pense même qu'on rêve tous du Barça, on imagine tous le Barça en finale déjà. Parce que ce qu'il montre offensivement, etc. Mais l'Inter, ouais, c'est l'équipe pour déjouer tous les pronostics.
Qu'est-ce qui vous plaît à l'Inter, Eric?
Non, mais après, il y a une solidité collective, il y a une qualité offensive aussi, qui fait que, quand on se rappelle ce but qui marque avec la talonnade de Thuram, franchement, c'était...
Marcus Thuram et Lautaro Martinez.
Franchement, c'était magnifique. C'est du vrai football. Et elle a cette qualité-là aussi, cette équipe. En étant à domicile, avec le soutien du stade, que ce soit le Bayern en face ou pas, ils l'ont déjà montré en plus en Ligue des Champions et ils sont quand même assez brillants en Ligue des Champions. Même si ils la gagnent pas, ils sont quand même assez brillants.
Ils la gagnent pas ces temps-ci.
Oui, ces temps-ci, oui, bien sûr.
Ils l'ont déjà gagné.
Oui, bien sûr.
Et alors la dernière fois, c'était face au Bayern, justement. Saïd, qu'est-ce qui vous impressionne, vous, dans cette équipe? Parce qu'on n'arrête pas de parler de ce peut-être favori, mais qui avance un peu masqué, parce qu'effectivement, il n'y a pas de star qui dépasse. Hein, c'est alors là, pour le coup, une équipe, un collectif, même son entraîneur, voilà, c'est Simone Inzaghi, mais ce n'est pas non plus Luis Enrique.
Tactiquement, ils sont très cohérents. Tout à l'heure, je parlais du milieu de terrain. Vous avez évoqué Marcus Thuram devant et Lautaro Martinez, mais on peut aussi parler de l'assise défensive avec un joueur comme par exemple Benjamin Pavard. C'est peut-être pas le joueur le plus beau. Moi, le premier, j'étais pas un grand fan de Benjamin Pavard, mais aujourd'hui, force est de reconnaître.
Le remerciera toujours.
C'est un joueur, voilà. C'est un joueur qui est
pour
fiable.
Non, de malade.
C'est un joueur
qui est très fiable.
Qui a trouvé son équipe là-bas.
Qui a trouvé, voilà, ce système avec trois défenseurs lui convient parfaitement. Il y a aussi, on n'a pas parlé des gardiens. Au Bayern, actuellement, ils ont un jeune gardien qui a 21 ans, qui n'est pas très expérimenté. De l'autre côté, on a Yann Sommer, qui est quand même une référence, qui est passé par le Bayern pour remplacer notamment Manuel Neuer pendant une année. Yann Sommer, qui est quand même une référence, qui est un gardien, voilà, c'est un chat. Il est capable d'aller haranguer sa défense, de commander, etc. Je pense que vraiment l'Inter Milan a aussi cet avantage, et à la fois de jouer à domicile, mais aussi de l'expérience. Ça va être peut-être un peu trop juste pour le Bayern. Si je devais faire un petit prono, voilà, je dirais que c'est du 55-45, mais c'est très léger.
L'Inter qui a été finaliste de cette Ligue des Champions il y a deux saisons, hein, je ne me trompe pas.
Donc,
face à City, justement. Donc, ils ont aussi envie de se racheter et de briller sur la scène européenne. Et cela, c'est très important. Et c'est la fin de cette première édition de Radio Foot International. Merci beaucoup, messieurs.
Merci beaucoup.
Saïd. On se retrouvera bientôt tous pour évoquer les matchs, la suite de la Ligue des Champions. Eric est un peu affaibli aujourd'hui. Il ne pourrait pas disputer le match de la semaine.
Il ne pourrait pas jouer, c'est sûr.
Allez, soirée foot sur RFI. Soyez au rendez-vous. À tout à l'heure.